Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. La mulâtresse solitude, vers 1772-1802. Pour célébrer ses 30 ans, Une vie, une œuvre fait entrer au Panthéon, le temps d'une émission, une femme libre, une femme debout, comme l'on dit aux Antilles, la mulâtresse solitude. Personnage historique, autant que mythe, la mulâtresse solitude, l'esclave marronne et révoltée, exécutée après son accouchement en 1802 par les troupes napoléoniennes, venue rétablir l'esclavage en Guadeloupe après la première abolition révolutionnaire de 1794, solitude est devenue l'héroïne d'un roman éponyme écrit par André Schwarzbart et publié en 1972. À travers ce roman, notamment, mais aussi sa statue dressée sur le boulevard des Héros à Pointe-à-Pitre, la mulâtresse solitude est aujourd'hui une figure majeure de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de la lutte pour la liberté des Guadeloupéens. Elle est ce faisant une figure clé de l'histoire de France que de nombreuses personnalités souhaitent voir reposer ici, pour de bon, au Panthéon. À la fois femme et guerrière silex, qui selon la formule d'Aimé Césaire raye le fer et le regard des bourreaux, hirsute meurtrière et mère insoumise, solitude est une figure de proue et une chimère, en un mot, une héroïne. La mulâtresse solitude, une émission de Martin Kénéen et Doria Zénine.
Le mulâtre Jean-Christophe insistait pour qu'on fusillât les prisonniers blancs, disant faussement que ce serait de justes représailles, que là où les blancs dominaient, c'était le sort qu'ils faisaient subir aux femmes de couleur. Les négresses et les mulâtresses surtout se montraient acharnées contre les femmes blanches. La mulâtresse solitude, venue de la pointe à Pitre à la basse terre, était alors dans le camp de Palerme. Elle laissait éclater dans toutes les occasions sa haine et sa fureur. Elle avait des lapins. L'un d'eux s'étant échappé, elle s'arme d'une broche, court, le perce, le lève, et se présentant aux prisonnières, « Tiens, dit-elle, en mêlant à ses paroles les épithètes les plus injurieuses, voilà comment je vais vous traiter quand il en sera temps. » Et cette malheureuse allait devenir mère. Solitude n'abandonna pas les rebelles et resta près d'eux, comme leur mauvais génie pour les exciter au plus grand forfait. Arrêtée enfin au milieu d'une bande d'insurgés, elle fut condamnée à mort. Mais on dut sursoir à l'exécution de la sentence. Elle fut suppliciée le 29 novembre, après sa délivrance. Auguste Lacour, Histoire de la Guadeloupe, 1858.
Louis-Georges Thin, on le sait principalement grâce à ce texte d'Auguste Lacour, une esclave marronne, c'est-à-dire évadée, répondant au nom de Solitude, a donc lutté et est morte exécutée en 1802. Mais alors, que sait-on par ailleurs ou qu'a-t-on pu reconstituer de son existence historique ?
À vrai dire, vous avez à peu près résumé l'essentiel. Sa naissance, son combat, sa mort, l'enfant qu'elle portait. Voilà un peu ce qu'on sait. Tout le reste est littérature, et c'est ça la beauté de la chose. À partir de là, il y a eu effectivement des légendes, ce roman magnifique, des statues, une mémoire, en partie reconstruite, mais il fallait bien reconstruire quand précisément les historiens d'hier n'avaient pas fait ce travail nécessaire.
Mais alors précisément, on sait très peu de choses d'elle, sinon avec quelques certitudes qu'elle est morte exécutée en 1802, donc au moment du rétablissement de l'esclavage et puis de la reprise en main de la Guadeloupe par les troupes napoléoniennes, par Richepanse. Mais à travers sa figure, quels événements historiques et quel haut fait solitude incarne-t-elle dans l'histoire de la Guadeloupe en particulier ?
Elle incarne manifestement le combat des marrons et des marronnes, ceux qui ont résisté, car très souvent on évoque l'abolition du point de vue de Paris, une mémoire chelchériste, comme le disait souvent le comité pour la mémoire de l'esclavage, et on oublie que les esclaves ont été les premiers, bien sûr, à se battre contre l'esclavage, et cela depuis l'Afrique. Ils se battaient, certains étaient capturés. Une fois arrivés sur place aux Antilles, ils continuaient à se battre. Il faut comprendre que l'esclavage est une guerre civile, une guerre perpétuelle en réalité. Donc, la mulâtresse solitude émerge dans cette histoire et donne à voir, à entendre, le combat d'une femme qui forcément est encore moins connue que les hommes qui se sont battus dans ce même contexte alors que Napoléon Bonaparte songeait à rétablir l'esclavage.
Elle illustre en particulier, Louis-Georges Tin, ces années 1790, où déjà la contestation fait rage sur l'île de la Guadeloupe, contestation du système esclavagiste, un système esclavagiste qui est donc aboli en 1794, et puis qui sera donc rétabli en 1802. On peut parler d'une guerre de la Guadeloupe à ce moment-là ?
Absolument, c'est l'état de guerre. Évidemment, déjà avec Toussaint Louverture et tant d'autres à Saint-Domingue, et c'est ce même climat d'insurrection qui se poursuit en Guadeloupe, et les hommes et les femmes prennent les armes, et c'est dans ce contexte que se retrouve la mulâtresse Solitude, qui est capturée, tandis que d'autres préfèrent se donner la mort, comme le commandant Delgrès, mais qui meurt avec le panache que l'on sait, en prononçant cette déclaration magnifique qui a été lue et célébrée à maintes reprises.
Marie Scondé, à l'instant, Louis-Georges Tin évoque des figures masculines de héros, Toussaint Louverture, le commandant Delgrès en Guadeloupe. Mais à quelles autres grandes figures historiques féminines de la lutte contre l'esclavage peut-on associer Solitude ?
Bon, le problème, il y a peu de femmes qui sont des héroïnes, qui sont des mythes. Personnellement, j'en connais deux. Nanny of the Maroons à la Jamaïque, et Solitude en Guadeloupe. Je crois qu'il est nécessaire, nous avons besoin de pouvoir nous identifier un peu à des figures de femmes, parce que la femme aux Antilles occupe une position très complexe. Elle est toujours un peu marginalisée, toujours un peu dominée, toujours un peu asservie, et le fait qu'il Nanny et Solitude dans deux îles très différentes donne une sorte de courage, de voix féminine qui n'existerait pas sans elles. Mais elles sont très différentes. Nanny, au fait, a empêché les Anglais de s'établir en Jamaïque. Tandis que Solitude n'a pas pu lutter contre le plantation des Français, mais est devenue une marronne, a lutté contre eux, a fait partie de ces bandes, de ces troupes qui ont empêché les Français de vivre comme ils le voulaient sur l'île. Et finalement, elle a été tuée. Mais elle a été exécutée avec retard, dit le mythe ou la légende, après la naissance de son enfant. Une sorte de mansuétude qui n'est pas très probable. Je crois que si le mythe a été arrangé pour avoir un air humain, mais que dans la réalité, si elle a existé, elle a péri certainement plus cruellement.
Oui, elle a sans doute péri en 1802 avec le commandant Delgrès quand il fait sauter cette habitation dans laquelle ils étaient retranchés à Matouba. Oui. Peut-être a-t-on, comme le disait le texte lu par André Wims, attendu qu'elle accouche, pas pour des questions humaines, mais pour des raisons inhumaines, pour récupérer un esclave et pour le donner à de nouveaux maîtres. Il y a d'autres femmes, à part Solitude, à part Nanny of the Maroons, donc la Granny Nanny des Jamaïcains, qui a lutté pour la reconnaissance du statut d'homme libre pour les esclaves marrons de la Jamaïque, dans votre panthéon personnel, Louis-Georges Tin ?
Alors, je dois dire que j'ai un faible pour une femme qui a vécu dans le Massachusetts dans les années 1780, que l'on appelait Mum Bet, et qui, se trouvant un jour dans la petite ville de Sheffield, apprend que selon la Constitution des États-Unis, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et elle dit, mais alors, comment suis-je esclave ? Ma situation est anticonstitutionnelle. Alors, ce n'est sûrement pas le mot qu'elle emploie, mais elle voit là une contradiction. Et décide d'interpeller un avocat en lui disant « je demande émancipation et réparation ». Pour le coup, c'est le mot qu'elle emploie. Alors, je n'ose imaginer la réaction de cet avocat qui a dû se dire « mais cette femme est folle ». Nous sommes, je le rappelle, en 1780. L'esclavage aux États-Unis est aboli en 1865. Et malgré tout, cet avocat se dit finalement « elle a raison ». Et il plaide jusqu'à la Cour suprême, tant et si bien que cette femme obtient à la fois émancipation et réparation. Et de ce jour, elle dit « ne m'appelez plus Mum Bet, appelez-moi Elizabeth Freeman, comme une personne libre, s'il vous plaît ». Et de fait, cette histoire nous est connue par le manuscrit qu'a laissé, après sa mort, la fille de l'avocat, justement, un manuscrit qui est accessible sur Internet, qui fait 80 pages. Et de ce fait, une jurisprudence s'est établie, d'autres esclaves ont obtenu réparation, ou pas beaucoup, mais quelques-uns, et en tout cas, dans le Massachusetts, même s'il n'y avait pas beaucoup d'esclaves, cette jurisprudence a permis d'abolir définitivement l'esclavage. Voici une femme qui mérite d'être connue.
Alors la mulâtresse Solitude, elle, n'était pas américaine. Elle a trouvé une sorte d'avocat en la personne d'André Schwarzbart, romancier, qui s'est installé avec sa femme Simone Schwarzbart à la Guadeloupe et qui lui a consacré ce roman éponyme, donc la mulâtresse Solitude, en 1972. Et j'ai précisément demandé à Simone Schwarzbart quelle femme André avait-il représentée dans son roman La mulâtresse Solitude.
Il ne s'agit pas de l'héroïne d'Auguste Delacour. Il s'agit d'une héroïne qui est complètement refaite, si vous voulez. Mais l'histoire de cette solitude-là, c'est une histoire qui doit être porteuse d'autre chose. Nous n'en restons pas du tout à l'héroïne de l'histoire, puisque si nous en restons là, nous avons quelques lignes, justement, qui sont assez piètres et qui ne nous donnent en rien une once de noblesse. Or, ça n'est pas cette histoire-là que nous voulons raconter. Ce n'est pas cette histoire-là que nous voulons entendre, nous autres Antillais. Nous avons besoin de nous reconstituer. Nous avons besoin de recoudre la vie. Nous avons besoin de héros et de héros un peu bibliques, quasiment. Il s'agit d'une solitude qui est porteuse de notre histoire et qui fait passer cette espèce d'ombre que nous avons, qui s'attache à nos pas avec cet esclavage et qui éclaire. Cette solitude est faite pour nous éclairer et non pas pour nous assombrir. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin, ce n'est pas ce dont André a envie d'écrire. Solitude, c'est une héroïne, une sorte de juste. C'est pour cela que le peuple s'attribue tant cette histoire. C'est parce qu'il sent bien que cela a pu exister, que c'est cela en fait son histoire. C'est une histoire de résistance, une histoire de rébellion. On a pris de solitude cette héroïne bifrontale, on a pris cette complexité, on a pris cette dureté d'un destin et en même temps, après, cette espèce de grandeur qui termine ce récit par l'exécution de solitude au lendemain de son accouchement. La boucle était bouclée.
Louis-Georges Thin, la femme solitude que les Antillais connaissent aujourd'hui et que, par exemple, vous, mais aussi la philosophe et historienne Geneviève Fraisse souhaitent voir panthéoniser, c'est donc en grande partie une héroïne de fiction inventée par Simone et par André Schwarzbart. Son existence historique est méconnue, elle est avant tout une figure mémorielle, mais Édouard Glissant soutenait l'idée que l'écrivain doit justement fouiller cette mémoire à partir de traces parfois latentes qu'il a repérées dans le réel, parce qu'écrit-il, le temps antillais fut stabilisé dans le néant d'une non-histoire imposée. L'écrivain doit contribuer à rétablir sa chronologie tourmentée. Alors, est-ce que vous pensez également, vous, Louis-Georges Thin, que la mulâtresse Solitude doivent servir à rétablir cette chronologie tourmentée du temps antillais ?
Je crois que dans les silences de l'histoire, la littérature fait son nid, fait son miel. Et en effet, ce que l'histoire ne nous a pas dit, la littérature peut le suggérer. Et donc, c'est une sorte de reconstitution qui n'a pas de valeur archéologique, mais une valeur humaine, sans doute bien supérieure à cela. J'aime beaucoup d'ailleurs quand Simone Schwarzbart fait la comparaison avec les Justes. Les Justes, et on sait que son époux a écrit là-dessus un fort beau roman.
Le dernier des Justes.
Le dernier des Justes, en effet.
Prigoncourt en 1959.
Et je trouve qu'il y a une justesse à cette comparaison, si j'ose dire, parce que précisément, les Justes sont les héros du quotidien, qui ont fait des choses magnifiques dans la solitude et dans le silence. Ce ne sont pas nécessairement les héros masculins sabre clair, sur leur cheval, avec panache. Ce sont parfois les petites gens qui ont pu sauver des juifs pendant la guerre, qui ont pu sauver leurs proches comme cela. Des femmes, par exemple, qui, pendant la nuit, essayaient de courir d'une plantation à l'autre pour aller voir leurs enfants et faire en sorte que leurs enfants aient encore le souvenir de leur mère, de leur généalogie, de leur histoire, des femmes qui parfois risquaient leur vie simplement pour donner un baiser. Eh bien voilà, je trouve ce que c'est qu'un juste, et ces figures aussi méritent d'être au Panthéon.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Maryse Condé, on a une figure en partie historique, une figure en partie mythique et héroïque, comme le souligne Louis-Georges Eutin. Mais à propos de chronologie, dans son roman La Mulâtresse Solitude, André Schwarzbart situe la conception de cette femme, de cette solitude, sur un navire négrier. Est-ce que c'est pour vous une évidence, comme pour ce romancier, mais aussi, par exemple, comme pour le poète et prix Nobel de littérature Derek Walcott, pour qui la mer et l'histoire, ce coffre gris qui renferme les monuments, les batailles et les martyrs de l'esclavage?
Quand j'ai relu Solitude, j'étais frappée par sa complexité. Une série de voix se faisait entendre venant un peu de partout. Il y avait une voix historique qui recréait, comme l'a dit Simone, Solitude, qui faisait d'elle un lien entre l'Afrique et les Antilles et une espérance énorme pour ce que nous allions devenir. C'est-à-dire que ce n'est pas un récit collectif, comme un conte ou comme un mythe d'origine. C'est le récit, la parole d'un écrivain. Donc cet écrivain a insufflé à la solitude qu'il a recréée avec son imaginaire, ses tensions, ses désirs, ses rêves. Il a insufflé à cette nouvelle créature tous nos désirs historiques, tous nos manques historiques, ce que nous avons été, ce que nous voulons être et ce que nous voulons devenir. En résumé, je veux dire que ce qu'on cherche dans Solitude, une vérité, elle n'est pas là où on la cherche. Elle se trouve dans une peinture sombre et profonde de l'époque, du temps, de l'oppression des Antilles d'alors. Et c'est une femme qui arrive quand même, en dépit de cette oppression, à garder foi en elle-même. Donc d'abord, nous voyons sa mère, Bayenguan, qui d'abord est esclave et emmenée aux Antilles.
Oui, sa mère donc capturée en Afrique, au Sénégal, et déportée jusqu'aux Antilles.
Sa mère donne naissance à un enfant qu'elle n'aime pas, mais cet enfant va finalement incarner le peuple antillais, sa résistance et sa fierté. C'est une œuvre unique et personnelle. Ce n'est pas un roman, un récit collectif.
Et pourtant, c'est ça la beauté. Louis-Georges Eutin, le fait, j'y reviens, que selon André Schwarzbart, dans ce roman personnel, à propos de la mulâtresse Solitude, la fasse concevoir sur un navire négrier d'une mère esclave et d'un père marin qui la viole au cours de ce rite quasiment qu'on appelait la pariade, où un mois avant d'arriver sur terre, les marins se jetaient sur les esclaves pour essayer de les engrosser, pour espérer les vendre plus cher à des acheteurs, à des maîtres. Est-ce que ça ne rend pas justement à la mulâtresse Solitude sa dimension collective en la plaçant au cœur de ce que Paul Gilroy a placé ce Black Atlantic, donc cet océan qui est au cœur de l'histoire collective, pour le coup, des Antillais?
C'est le fait des héros mythiques d'être à la fois singuliers, puisqu'ils se distinguent des autres, et en même temps universels, puisqu'ils ont cette dimension mythique. Le fait qu'elles naissent ou qu'elles soient conçues sur le bateau, c'est aussi le signe du lien avec l'Afrique, qu'on aurait pu oublier et que l'histoire rappelle de la sorte. Cette singularité, c'est aussi qu'elle ait un nom et un visage. Car très souvent, de l'esclavage, on retient une figure géométrique, le commerce triangulaire, quelques chiffres, entre 12 et 17 millions de personnes déportées, à quoi il faut ajouter celles bien plus nombreuses qui ont été tuées sur le sol africain. Mais ces personnes ne sont pas seulement des chiffres, une géométrie, un espace. Ce sont des personnes qui avaient un nom, une identité, et quoi qu'on en sache souvent fort peu, il est important par l'histoire ou par la littérature ou par tout autre moyen artistique que l'on puisse donner une humanité à ceux à qui elle fut déniée. Et je crois que Maryse Condé a beaucoup de choses à nous dire là-dessus par ses romans. On ne peut pas parler ici de La Mulâtresse Solitude sans parler de Tituba et de tant d'autres qui, elles aussi, ont donné une couleur, une image, une présence à toutes ces femmes, à tous ces esclaves, à tous ces rebelles, à toutes ces femmes d'Ubout. C'est cela le génie.
Selon une tradition orale encore vivace, à la côte sous le vent, du côté des pitons de Déhé, c'est vers l'âge de 11 ans que la petite fille de Bayangoumé tourna en zombie corne. En ce temps-là, disent les vieux conteurs créoles, la malédiction était sur le dos du nègre et le talonnait sans arrêt. On se couchait avec tout son esprit pour se réveiller chien, crapaud, démarrer ou zombie. Comme aujourd'hui, l'on se réveille avec un cheveu blanc. Cela n'étonnait personne et les gens disaient « Ah ». Ils disaient seulement « Ah ». Il y avait alors une grande variété d'ombres dans les îles à sucre. Nègres morts, animés par magie, nègres vivants qui avaient chu dans un corps de bête et d'autres. D'autres encore, dont l'âme était partie, on ne savait où. Ces derniers portaient habituellement le nom de « zombicorne ». Ils avançaient comme des bœufs de labour et leur tâche accomplie s'arrêtait tout d'une pièce. Ils restaient là, debout, comme des bœufs de labour. Les zombicornes étaient tout simplement des personnes que leur âme avait abandonnées. Ils demeuraient vivants, mais l'âme n'y était plus. Ces années sont obscures et leur chronique incertaine. On sait toutefois que l'enfant fut vendu et livré le 8 février 1784 en la bonne ville de Basse-Terre de Guadeloupe. Il semble même qu'elle était descendue au rang de bête des champs les derniers mois de son séjour à l'habitation du parc. Les nouveaux maîtres l'estampèrent à l'épaule et la mirent au travail de la canne. Ils croyaient avoir acheté un corps prolongé d'une âme, mais quand ils entendirent son rire, ils ouvrirent leurs 10 doigts et la lâchèrent sur un autre marché d'esclaves.
Louis-Georges Thin, dans le roman d'André Schwarzbach, La mulâtresse solitude, Solitude hésite longtemps jusqu'aux événements révolutionnaires de 1794 entre la soumission et la révolte. Est-ce qu'en cela, elle est aussi, selon vous, une incarnation emblématique de l'histoire des Antilles ?
Il est certain qu'il y a des bénéfices et des coûts à vouloir se révolter. Le bénéfice, c'est la liberté. Le coût, c'est peut-être la mort. Et donc, c'est une question qui se posait, mais à chaque instant, en fait. Pas simplement dans les grands carrefours de l'existence, mais à chaque instant. Est-ce qu'on va prendre la liberté de dire quelque chose, de faire quelque chose, de regarder d'une certaine façon ? Et donc, ce sont des micro-décisions, de micro-actes de courage ou de lâcheté que l'on a nécessairement à tout instant. Cela, d'ailleurs, n'est pas à merveille. Je crois que dans toutes les situations d'oppression, on en est à calculer chaque fois jusqu'où on peut oser, jusqu'où on peut aller trop loin, comme on le dit souvent. Et c'est ce calcul que devaient faire les esclaves, même quand ils étaient en train de fuir. Par exemple, faut-il traverser le marais où on risque de s'enliser ? Faut-il prendre la plaine, mais les chiens vont vous rattraper ? Faut-il retourner et demander pardon ? Ce sont ces micro-calculs perpétuels que faisaient les esclaves. On ne s'en rend pas suffisamment compte.
À propos justement de ces esclaves évadés, de ces esclaves marrons, Marie Scondé, dans La mulâtresse solitude d'André Schwarzbach, devenue marronne, évadée donc sur les cimes de la Guadeloupe aux côtés d'anciens esclaves qui ont brisé leurs chaînes, Solitude fait l'expérience de ce qu'on pourrait appeler le double marronnage, une expression forgée par Suzanne Dracius, un marronnage qui est à la fois dirigé contre les Blancs, mais aussi contre soi-même. C'est le propre aussi de cette héroïne d'être mulâtresse, d'être métisse, d'être double, à la fois noire, à la fois blanche, une fiente jaune, comme l'accuse d'être les autres esclaves. L'importance de Solitude, Marie Scondé, se situe également dans ce double combat.
Mais le point intéressant avec Solitude, c'est aussi sa modernité. Jusqu'à maintenant, un Antillais est confronté à une série de possibilités d'être. Tantôt, il est tenté de se soumettre à ce qu'il appelle la métropole, en disant finalement, j'ai beaucoup d'influence métropolitaine, pourquoi ne pas m'aligner totalement avec eux ? Tantôt, il revendique une africanité, une différence radicale, il ne se dit pas du tout, je viens d'Afrique, je suis autre chose. Tantôt, il se dit, je suis un mélange de l'Afrique et des Antilles, donc je dois peut-être trouver une voie médiane. Je crois que le combat qu'incarne Solitude, ce tiraillement entre des possibilités diverses de révolte, de soumission, de création d'une troisième identité absolument différente sont présentes aujourd'hui encore dans la psyché antillaise. Je crois que nous ne savons pas exactement ce que nous sommes parce que nous pouvons tout à la fois et que nous voulons être tout à la fois. C'est ça le dur, la dureté de ce combat. On veut être tout à la fois et finalement, il y a des limites auxquelles on se trouve confronté. Mais solitude ne connaît pas de limites. La pauvre, elle meurt. Elle meurt parce qu'il n'y a pas de fin pour elle. Il n'y a pas de choix définitif.
Louis-Georges Thin, bien qu'aujourd'hui, depuis Solitude, morte donc en 1802, on ait conceptualisé la négritude, l'antillanité, la créolité, il y a encore de quoi devenir zombie-corne à vivre dans la peau d'une antillaise, d'un antillais ?
Oui, alors tout dépend de ce qu'on appelle zombie-corne. En tout cas, il y a de quoi devenir fou. Les travaux de Fanon montrent que, dans un contexte tout à fait anormal, comment voulez-vous vivre ? Soit vous vous adaptez, ce qui est le propre de la vie, mais alors vous adaptez à l'impossible, soit vous résistez et vous sombrez dans la contradiction ou dans la mort. Et donc, en effet, on ne peut que devenir fou, zombie, rebelle, on est condamné à l'exception, et voilà un peu le destin singulier de toutes ces figures oubliées, à part quelques-unes qui émergent grâce à des auteurs.
Des pioches, des couperets, des instruments de cuisine heurtaient l'acier des baïonnettes et les négresses envoyaient leurs ongles à la gorge des soldats. Les enfants déboulaient entre leurs jambes, mordaient les pantalons des uniformes de la République, les mollets nus et sombres des gardes nationaux. Un soldat aux cheveux blonds traversait la terrasse, les narines dilatées de fureur, la bouche emplie d'écume et d'une sorte de plainte ininterrompue. À chacun de ses pas, le plumé du shako tressautait comme la crête d'un coq. L'instant, sans nul doute, requérait une attention particulière, et les yeux, devenus pareils à deux lacs. Solitude saisit un fusil abandonné et en pointa le canon vers l'homme aux boucles jaunes. Comme elle forçait la détente, le grenadier de France parut s'élever dans les airs en un tournoiement de roches et de lumière, de sang vermeil, de pensées miroitantes et désolées qui traversèrent vivement le ciel avant que retentît un vacarme énorme dans le ventre de Solitude. L'habitation d'Anglemont venait de sauter tout entière, projetant dans le même espace les hommes blancs et les autres, dans le même enchantement d'azur, dans une même défaite.
Solitude a participé à la révolte, les armes à la main, en Guadeloupe en 1802. Pour vous, la violence dont elle fait usage, c'est d'abord une violence spirituelle où vous tenez à rappeler, insister sur le fait que des hommes et des femmes se sont battus aussi et ont versé le sang pour la liberté.
Mais bien sûr, pour qu'il y ait révolte, il faut qu'il y ait violence. Ils sont obligés de répondre à la violence par la violence, bien entendu. Mais au-delà de tout cela, il y a cette espèce également de réappropriation de cette dignité. Il y a l'effacement de l'humiliation permanente. Il y a cette rupture avec ce destin de chaîne. Et ça se fait avec les deux choses. Ça se fait avec les armes, bien évidemment, et ça se fait aussi avec la conscience que l'on fait tout cela en être humain, dans le sens où l'inhumain est humain.
Simone Schwarzbart parle de la violence, celle de Solitude, dirigée notamment contre l'humiliation. Mais alors, Louis-Georges Thin, parlez-nous de la violence à laquelle elle répond, celle du système esclavagiste.
C'est une violence de tous les jours. La privation de liberté, la torture, et du coup, les femmes comme les hommes en viennent à répondre à la violence par la violence. Il n'est pas toujours simple de mettre en œuvre la non-violence à la Gandhi quand on vous fouette. Et ça prend des formes diverses. Certaines avortaient, par exemple, pour éviter que leurs enfants ne connaissent le même sort, ce qui est une violence terrible. D'autres femmes choisissaient d'empoisonner, par exemple, le maître. Choisissaient, par exemple, d'écraser des tessons de verre dans la soupe, ce qui produit évidemment une mort atroce. Et c'est ainsi, je le disais, que l'esclavage ne fut pas une situation d'avilissement, ce fut une guerre totale et de tous les instants. Et évidemment, cela nous semble un peu étonnant. Nous sommes habitués, loin de toutes les guerres en France, à penser la paix, la démocratie. Nous voyons la guerre à la télé, elle a toujours l'air propre finalement. Et nous avons oublié tous les combats nécessaires pour arriver à cela. Et même Mandela lui-même a été un terroriste, selon les termes de l'époque. On sait à quel point cela lui fut reproché, y compris dans les pays occidentaux. Et donc, est-il vraiment possible de se battre sans armes ?
Précisément, vous évoquez la violence de ces femmes, de ces hommes, en réponse à celle du système esclavagiste. Rappelons qu'il y avait des fers, des chaînes, des entraves, des carcans, des garrots, des colliers de fer dont les pointes empêchaient de dormir, le cachot, la potence, les masques de fer blanc fixés sur la bouche pour empêcher de manger, des épieux incandescents enfoncés dans le corps, des mutilations, des lynchages. Et en réponse à toute cette violence, donc, une violence de la part des anciens esclaves, des esclaves évadés, des marrons en particulier. Maryse Condé, dans votre essai « La parole des femmes » et dans votre roman « Ségou », vous faites une place à la violence des femmes esclaves. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre point de vue sur cette violence?
Oui, parce que Aimé Césaire dit que l'homme ne peut devenir un homme à part entière que s'il verse le sang de son maître. Le baptême qui fait de vous un homme ou une femme debout, comme on l'a dit, c'est un baptême de sang. Ce n'est pas avec de l'eau du Straal que vous êtes baptisé, c'est avec le sang du maître, le sang de celui qui vous a torturé. Par exemple, on vient de parler de Mandela, c'est intéressant, parce que l'Afrique du Sud a créé tout de suite après la fin de l'apartheid les commissions vérité et réconciliation et a demandé de pardonner aux anciens maîtres, de pardonner aux anciens tyrans. Était-ce juste? Était-ce la voie à suivre? N'avait-on pas besoin de se venger des anciens tyrans pour redevenir, pour devenir un être à part entière? Donc je crois que la violence a ce caractère libérateur d'une part. Il faut être violent pour devenir un être humain. Et quand même, un côté que nous récusons, qu'on voit des événements qui se sont passés récemment en France, où on tue des terroristes, tue un homme qui vraiment n'avait pas cherché à le faire le mal. La violence est ambiguë, mais tout est ambigu dans le monde. Il n'y a pas de notion, il n'y a pas d'élément qui soit bénéfique ou maléfique. Il faut chercher toujours ce qui est bon et dans quelle mesure c'est bon. La violence est certainement nécessaire à certains endroits, mais si elle est aveugle, si elle est irraisonnée, si elle est intolérante, elle peut devenir dangereuse. Mais je crois que la violence de solitude dans le camp des marrons était bénéfique et nécessaire.
Mais précisément, parlez-moi encore de la violence exercée par les femmes. Vous aimez à citer ce proverbe antillais selon lequel la femme, c'est une châtaigne.
Les femmes n'étaient pas plus violentes que les hommes. Mais justement, comme elles étaient femmes, on leur disait « c'est pas votre rôle ». Votre rôle est de faire à manger, donner le sein aux enfants, laver le linge, soigner. Donc finalement, elles avaient l'impression que le domaine du combat, de la violence, ne leur appartenait pas. Mais pourtant, elles ont quand même fait pas mal d'exceptions. Je pense à la négresse Gertrude.
Autre Guadeloupéenne, esclave Guadeloupéenne, brûlée vive, enfin brûlée
très peu connue dans
après avoir été pendue.
Mais qui a tué et qui a contribué à faire tuer toute une série de Blancs de la région de Petit-Bourg. Alors, elle a été finalement exécutée comme une traîtresse. Mais finalement, est-ce qu'elle ne devrait pas être magnifiée comme une héroïne qui a fait le bien, qui a fait du bien à son peuple? Donc, vous voyez le caractère ambigu de la violence, surtout quand ce sont les femmes qui s'en servent, parce qu'ils semblent être faites du côté de la vie, donner la vie, perpétuer la vie, entendre un avis et non pas essayer par tous les moyens de la détruire ou de la changer.
Et Louis Georges Autain, justement, comment faites-vous avec cette ambiguïté de ces femmes combattantes, l'esclave Gertrude, donc à Petitbourg, la mulâtresse Solitude, ou encore Marthe Rose, dite Toto, la compagne du commandant Delgrès, et qu'on retrouve dans cette histoire de la Guadeloupe d'Auguste Lacour du milieu du XIXe siècle, et qui, elle, avait le sabre à la main pour se battre contre les Blancs?
Je dirais qu'il faut être sartrien et être en situation. Et donc, chaque situation impose ses nécessités. Effectivement, Mandela, dans le contexte de sa sortie de Robben Island, pouvait engager un dialogue pacifique. Ce dialogue n'était sans doute pas possible 27 ans plus tôt. Chaque moment impose ses nécessités et il est toujours compliqué rétrospectivement de décider ce qui était la meilleure stratégie pour celles et ceux qui étaient opprimés. Donc nous avons parfois du mal à comprendre ce passé violent. Or, cette violence, effectivement, est consubstantielle à l'esclavage. Vous avez rappelé ces pratiques, le code noir lui-même qui organise absolument l'immoralité. Encore faut-il rappeler que quantité de personnes, non seulement en Afrique, dans les Antilles, mais aussi dans l'Hexagone, se sont levées pour condamner cela. Sait-on que le code noir s'appelle code, précisément parce que le Parlement de Paris a refusé de l'enregistrer comme étant un texte abhorrent, dit-on à l'époque, abhorrent au droit naturel, au droit divin et au droit de la France. Et donc, on peut dire d'une certaine façon que le code noir a été mis en œuvre par un passage en force alors que les lois du royaume s'y opposaient. Donc il n'est pas vrai que tout le monde à l'époque ait cautionné cette violence.
Aujourd'hui, les choses ont peut-être changé. Justement, quel est le sentiment aux Antilles, en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, par exemple, d'après vous, Louis-Georges Autain, à l'égard de ces figures guerrières? Il y a toujours le sentiment d'une violence nécessaire d'une partie des Antillaises et des Antillais qui se sentent opprimés économiquement, socialement?
Oui, parce que un crime contre l'humanité n'est pas quelque chose qui advient le samedi soir et dont on se remet le lundi matin en repartant au boulot. Voyez un peu la question des Amérindiens, des crimes qu'ils ont souffert bien avant l'esclavage. Vous pouvez aller de la Patagonie à l'Alaska et vous verrez partout les Amérindiens dans des bidonvilles, dans des réserves, avec des taux de chômage et de suicide. C'est dire que si l'esclavage date d'hier, ses conséquences sont encore bien actuelles. On l'a vu lors des émeutes de 2009. Un certain nombre d'ailleurs de descendants d'esclavagistes ont pris peur et sont venus se réfugier à Paris. Ils avaient raison d'avoir peur parce que ces tensions n'ont jamais été dénouées, les problèmes n'ont pas tous été résolus. Il y a eu des progrès, il y a des résistances. Nous sommes au Panthéon, en lieu de mémoire, mais sait-on qu'il y a 12 000 musées en France et pas un seul musée de l'esclavage? Nous avons porté un vœu encore tout récemment qui a été à peu près refusé par la mairie de Paris, qui estime qu'il n'y a pas besoin ou que ce n'est pas la mairie de Paris de prendre en charge une pareille chose. Monsieur Chirac s'y était engagé, il avait même demandé à Monsieur Glissant de faire un rapport de préfiguration. Aujourd'hui, comment se fait-il qu'il y ait 12 000 musées en France, 12 musées du sabot et 0 musée de l'esclavage?
Mais il y a cependant à Bagneux, dans la proche banlieue parisienne, un monument à la gloire, à la mémoire de la mulâtresse Solitude, en plus de la statue qui est dédiée à Solitude sur le boulevard des Héros à Pointe-à-Pitre.
Imaginez un bloc où il y a une empreinte de femme. On pourrait presque dire une matrice. Je ne pouvais pas me permettre de sculpter Solitude pour une raison bien simple, c'est qu'il y a un magnifique monument qui est à Pointe-à-Pitre. J'ai jamais été, mais c'est une sculpture en bronze d'une femme qui se retourne, qui se révèle, elle est tout en cheveux, elle a une pêche, elle a la patate. C'est une bonne sculpture. Donc je ne pouvais pas en faire une deuxième. À quoi bon? Et d'ailleurs, tous les Guadeloupéens sont très attachés à cette image de Solitude, ce grand bronze qui est là-bas. J'aimerais bien aller le voir un jour. Mais j'ai rencontré le maire de Grandbourg. Quand il a vu ma sculpture, il était saisi, il a dit « Ah, c'est la trace de Solitude ». En fait, j'ai sculpté une absence de Solitude. Vous avez un bloc de bois en face de vous, avec une sorte de creux en forme de femme, mais c'est assez abstrait, ça ressemble plutôt à une barque en gros, mais avec des cannelures. On imagine, si on fait un effort, qu'il y avait une femme et qu'il n'y en a plus. C'est ça que j'ai coupé en deux, donc il y a laissé deux espèces de bouts de barque de chaque côté. Et le bloc central, c'est vraiment une sorte de matrice en fer avec un vide où on imagine qu'il y avait une femme. Le bloc, il fait 2 tonnes. C'est quand même de l'iroco, c'est très dense. J'ai découpé en deux le modèle pour que tout ça ne puisse plus jamais devenir un tirage. C'est vraiment une pièce unique. Alors, important, le bois, c'est pas un bois que j'ai été acheter chez un marchand de bois. C'est un bois qui provient de la forêt de Guiglot, en Côte d'Ivoire, qui m'a été offert par le sorcier guéré du village de Béoua, après de longues palabres. C'était très important pour moi que le bois provienne non pas d'une exploitation traditionnelle du bois africain, mais qu'il y ait une cérémonie d'abattage d'un sorcier guéré, parce que ça prend sens aujourd'hui. Donc ce bois, c'était merveilleux de l'avoir, ce bois sacré, de l'avoir sacré par un sorcier guéré, c'était merveilleux de l'avoir. Donc j'en ai profité évidemment. Alors en ce qui concerne les couleurs de ces blocs, vous avez les 3 couleurs initiatiques qu'il y a dans toutes les religions du monde, les religions cosmiques, on pourrait les appeler, celles d'avant la différence qu'il y a entre le paganisme et le monothéisme. Ces religions qui nous ont fait naître, parce que autrefois, il y avait le noir, le rouge et le blanc, point final, dans toutes les religions du monde. C'était quoi ? La cendre, le feu, plus exactement le bois brûlé ou le charbon. La cendre devient blanche. Ça, c'est pour le blanc poudreux. Mais il y avait aussi le blanc qu'on trouve dans la terre, le kaolin, l'argile blanc. Et le rouge, c'est l'argile rouge. Mais c'est aussi le sang. Ouais. Ça, ce fer GS, c'est évidemment... vous savez que c'est pas le fer qui est du sang, c'est le sang qui est du fer. Dans notre sang, il y a du fer. Et je trouve ça particulièrement cruel d'enchaîner des gens avec leur propre sang. Surtout que quand vous connaissez les détails horribles, si vous voulez qu'on rentre dans le détail, pour punir les esclaves qui se rebellaient, on trempait les fers dans du purin et on leur remettait les fers tout gentiment et ils mouraient de la gangrène. Au bout de quelques jours, parce que les fers frottaient les blessures et ça s'infectait. Ça, c'est l'une des tortures que l'on faisait subir à nos frères de sang. Et donc, il était nécessaire d'utiliser du fer. Comment est-ce qu'on pourrait en parler autrement ? On n'avait pas fait un bronze quand même, dans ce cas-là, ou un marbre. Voilà pourquoi elle est en fer, rouillé. Alors, on est en face de la cité où Fofana a torturé Halimi, vous saviez ça ? C'est pour ça qu'elle est là, cette sculpture. On est quand même dans un truc très particulier. Moi, ce que je veux, c'est donner une matrice au rêve, c'est tout. Mais dans ce cas-là, c'est plus qu'un rêve, c'est un souvenir. Essayer de faire exister un souvenir. Essayer que cette femme ne soit pas morte en vain. Essayer de se dire qu'on est tous issus de ce ventre, puisque aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on ne vit plus dans un monde où l'esclavage existe de manière officielle. Donc nous sommes tous libérés de l'esclavage grâce à Solitude. C'est notre mère. L'une de nos mères.
Marie Scondé, comme Nicolas Alquin, sculpteur à Bagneux, ville d'Île-de-France jumelée avec Grandbourg en Guadeloupe, chaque artiste et écrivain en particulier s'empare à sa façon de Solitude. Ainsi, le roman d'André Schwarzbart, La Mulâtresse Solitude, témoigne-t-il, selon vous, je crois, d'une appropriation personnelle de cette femme et de sa légende, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais alors, quelle est votre solitude, Marie Scondé ?
Ma solitude, voilà une question très complexe. Ça dépend un peu des jours. Certains jours, je me sens violente et prête à tuer et mourir comme solitude. D'autres jours, je me rappelle que je suis mère, que mon ventre s'arrondit pour porter des enfants, 4 enfants, et que peut-être je dois chercher un dialogue de tolérance, de compréhension, de communication entre les êtres. Donc ma solitude serait moins violente que la vraie solitude, moins univoque que la vraie solitude, elle serait plus plurielle et plus hésitante. En fait, je crois que le problème du colonisé, c'est qu'il ne sait jamais quelle attitude avoir. Doit-il tout casser, tout détruire? Hélas, il ne le peut pas. Il aurait aimé, mais il ne peut pas le faire. Doit-il garder une part de ce qui lui a été imposé? Oui, mais il faut choisir. Il veut choisir. Il veut pouvoir choisir et ne pas accepter tout ce qu'on lui a légué. Donc finalement, ma solitude, c'est une quête, c'est une recherche. Ce n'est pas un être défini qui naît, qui vit, qui meurt à une date précise. Elle est infinie et je la cherche toujours.
Et vous, Louis-Georges Eutin, l'avez-vous trouvé, votre solitude?
Je dirais que j'en ai au moins deux. Il y a une solitude officielle, celle que nous voudrions voir au Panthéon. Nous avions lancé un appel dans le monde en ce sens en 2007, qui avait été signé d'ailleurs par des femmes comme Marie Scondé, comme Clémentine Autain, ou par des hommes comme Édouard Glissant ou Aimé Césaire. Et à l'époque, et Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal s'y étaient opposés, ne trouvant pas cela judicieux.
Ségolène Royal qui a pourtant lancé sa campagne électorale en 2007, justement en chantant les louanges des femmes debout comme Solitude.
C'est vrai, mais en disant qu'il fallait que Solitude entre dans les livres d'histoire. Donc pas encore au Panthéon. Et puis il y a une autre solitude moins officielle, peut-être plus personnelle, à laquelle je pense, qui est la solitude des enfants, j'allais presque dire des familles. Il m'est arrivé au cours de cette campagne, pour la panthéonisation d'Olympe de Gouges et de Solitude, en fait, de parler dans des classes à des enfants. Et moi, je racontais un peu l'histoire, le roman. Et en fait, ce qui attirait l'attention des enfants, c'était l'enfant, justement. Ils me disaient, mais qu'est devenu cet enfant? Et j'avoue que je n'y avais pas tellement réfléchi, et je ne savais pas quoi leur dire. Et il m'a semblé que la seule réponse qu'on pouvait faire, c'est cet enfant, eh bien, il est un peu en chacun d'entre vous, en chacune d'entre vous. Et c'est un petit peu ce que disait le sculpteur, si elle est notre mère, en effet, nous sommes 16 enfants, et c'est à nous, par conséquent, de poursuivre l'œuvre de liberté par les moyens nécessaires.
Marie Scondé, vous êtes donc une mère insoumise, vous êtes parfois une guerrière silex, je citais Aimé Césaire tout à l'heure. Vous vous sentez aussi une fille de Solitude?
Je voulais dire un mot à Georges Eutin. Je crois que le jour où j'ai signé sa pétition pour que Solitude vienne au Panthéon, c'était un jour où j'étais rebelle. Mais je ne suis pas toujours rebelle. Des fois, je suis douce comme la brise de mer, une image brise de mer.
Mais alors aujourd'hui, Marie, aujourd'hui, êtes-vous plutôt rebelle, plutôt
Mais aujourd'hui,
douce?
Ça dépend. Avec vous, des fois, je suis un peu rebelle, mais en réalité, je crois que c'est plus difficile pour moi de me définir et de me situer. Tantôt rebelle, tantôt soumise, tantôt très douce, tantôt très violente.
Mais alors aujourd'hui, vous êtes toutes ces femmes-là, certainement, hein, Marie Scondé. Nous sommes sous la coupole du Panthéon à Paris pour les 30 ans d'une vie, une œuvre. Est-ce que vous feriez encore aujourd'hui entrer Solitude au Panthéon? Est-ce que vous la préférez à jamais sans feu ni lieu?
Ça dépend du jour où Louis-Georges Eutin m'envoie sa pétition en signe. Mais je pense quand même que je la ferai entrer au Panthéon. Il y a trop peu de femmes. Il faut qu'une femme, surtout une femme mulâtrice, arrive et relève, comme on dit, notre honte. Il faut qu'elle arrive, il faut qu'elle vienne, qu'elle entre.
Là, nous sommes en effet entrés avec vous, Marie Scondé, au Panthéon. On est au pied du groupe de la statue de la Convention nationale. Alors, ça manque de femmes. Il y a quand même une Marianne qui porte l'épée, donc qui est peut-être aussi une fille de Solitude de ce point de vue-là.
Oui, mais c'est peut-être aussi une fille d'un acteur, d'une actrice à belle figure. Donc, je préfère laisser dans le flou et dire peut-être. Elle peut rentrer ou elle peut-être un jour
Et vous, Louis-Georges Tin, alors vous, on le sait, vous l'avez dit, vous avez signé cette tribune, initié cette campagne pour la panthéonisation de Solitude. Il y existe déjà des lieux de mémoire, des statues. Je citais celle du boulevard des Héros. On a entendu Nicolas Alquin, sculpteur, parler de sa statue dédiée à Solitude à Bagneux. Il y a des écoles qui portent son nom. On parle d'une statue dans le petit hémicycle du Sénat aussi aujourd'hui à Paris pour Solitude. Est-ce qu'il faut aux Français encore un effort pour donner à Solitude la place qu'elle mérite dans notre histoire ?
Alors oui, il faut faire mentir le fronton du Panthéon aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Par ailleurs, il ne s'agit pas bien sûr que de Solitude. Je vais prendre quelques exemples. La bataille de Vertières, par exemple. Qui la connaît en France ? Tout le monde connaît Waterloo, personne ne connaît la première défaite de Napoléon. Or, à Saint-Domingue, c'est le monde qui a basculé, car la révolution en marche à Saint-Domingue qui devient Haïti, puis dans toute l'Amérique latine et ensuite en Afrique, eh bien, ça fait partie des quatre ou cinq grandes révolutions du monde, avec la révolution française, la révolution américaine, la révolution soviétique, la révolution chinoise. Ce sont de grandes pages de notre histoire mondiale qui ne sont pas connues. Et je rappelle que la colonisation, c'est 500 ans d'histoire mondiale. Il n'y a pratiquement aucun pays au monde qui n'a été colonisé ou colonisateur, ou parfois les deux. Et donc, il ne s'agit pas de détails de l'histoire, il s'agit de notre histoire, de la mondialisation première, une mondialisation qui était une mondialisation finalement unilatérale. Aujourd'hui, elle est plus complexe, mais nous devons prendre à bras le corps cette histoire.
Mais cette histoire a longtemps été difficile à établir pour différentes raisons, mais en particulier pour des raisons intimes, comme nous le dit Simone Schwarzbart à propos, à nouveau, de l'ouvrage d'André Schwarzbart, La mulâtresse Solitude.
Quand il y a un choc énorme, pensez aux descendants de la Shoah. Il y a eu un énorme silence après. Les gens ne pouvaient pas en parler de cette histoire. Parler de l'horreur, transmettre l'horreur à ses enfants, on hésite à le faire. Donc cette amnésie, ce n'est pas une simple amnésie. Je pense que c'est une amnésie tout à fait réfléchie. Parce que les gens, on avait beau leur demander comment ils avaient vécu cet esclavage, ces temps lointains, les gens ne parlaient pas, les gens ne transmettaient pas leur expérience de cette période-là. Ils n'avaient pas envie d'assombrir les enfants qui venaient. Et c'est tout à fait consciemment qu'il y a eu cette amnésie et ce silence. C'est cela qui a protégé justement et qui a permis que l'on se refasse, que l'on se remette à espérer, que l'on croit en soi. Les périodes, ce sont des strates qui, petit à petit, composent le vécu et l'histoire de l'Antillais et de l'homme en général, d'ailleurs. Mais là, vous avez un silence, une énigme, un mystère. On sent que c'est très lourd. Et les gens, tant qu'ils n'ont pas digéré, tant qu'ils n'ont pas recréé eux-mêmes ce qu'il convient de raconter, ce qu'il convient de dire à la génération suivante, ils sont justement dans cette amnésie dont parle Walcott, mais qui en fait est tout simplement une grande protection et une grande sagesse.
Simone Schwarzbart a raison de parler de cette amnésie auto-imposée. Il faut aussi parler de l'amnésie imposée. Si on ne connaît pas Vertières, par exemple, c'est parce que Napoléon lui-même a dit à tous ses diplomates « Ne parlez pas de Vertières, il ne faut pas qu'on sache que j'ai été vaincu par les nègres ». 1848, le gouverneur de la Martinique dit aux esclaves « Oubliez tout cela, on n'en parle plus, on commence une nouvelle histoire ». C'est la politique de la « damnatio memoriae » qu'on pratiquait chez les Romains. Du passé, on faisait table rase et on croyait que la construction future serait plus juste. Évidemment, il n'en est rien. À l'injustice du crime, on ajoute l'impunité des criminels, une seconde injustice. Et je ne crois pas que ce soit exactement l'œuvre républicaine à laquelle nous soyons aujourd'hui appelés.
Marie Scondé, vous souhaiteriez...
Au-delà du mot amnésie de Darryl Walcott, je préfère le mot rature, raturage des vagues de sang. Quand on rature, si on gomme, on trouve quelque chose derrière. Nous n'avons rien oublié. Nous n'avons, y a pas de trou de mémoire. Simplement pour vivre avec les autres, pour vivre en paix avec nous-mêmes, nous avons fait semblant de laisser de côté. Mais quand on cherche bien, on retrouve. Quand on gratte, c'est là. La vérité est là et a surgi. Donc, au lieu d'amnésie, la mémoire du colonisé entier n'est pas amnésique. Elle est raturée, elle est barrée, elle est griffée, griffonnée. Mais dans le fond, tous les événements sont présents. Et si nous avons assez de courage, assez de foi, assez de force, nous pouvons repartir sur une base complète et positive.
Et définitivement, Louis-Georges Thin, il faudrait faire que la mulâtresse solitude échappe à ses ratures.
Eh bien, je crois qu'elle a déjà échappé à ses ratures, parce que c'est une œuvre nette, belle, je parle du roman, sans ratures, justement. Et donc, de ce point de vue, c'est un succès. À nous de suivre l'exemple romanesque qui nous a été montré en exemple.
Depuis quelques années, une route vicinale s'élève avec grâce vers les hauts Matouba. Demain, le tourisme aidant cette route atteindra les bords même du volcan, effleurera de sa caresse les lèvres chaudes de la caldeira. Venu de la basse terre, au travers de 100 résidences fleuries, le voyageur s'arrêtera à 2 ou 3 lancées de pierre de l'actuel village du Matouba. Sur la gauche, un portail marqué l'entrée d'une terre à bananes. Un gardien s'y tient quoi ? Dans une manière de guérite. Une petite plaque signale qu'un certain commandant Delgrès est mort de l'autre côté des grilles. Si l'étranger insiste, on l'autorisera à visiter les restes de l'ancienne habitation d'Anglemont. Ressentant un léger goût de cendre, l'étranger fera quelques pas au hasard, tracera des cercles de plus en plus grands autour du lieu de l'habitation. Ça et là, sous de larges feuilles mortes, dorment encore des moellons projetés au loin par l'explosion et déterrés, enterrés à nouveau et redéterrés par la houille innocente des cultivateurs. Il heurtera l'un d'eux du pied. Alors, s'il tient à saluer une mémoire, il emplira l'espace environnant de son imagination. Et si le sort lui est favorable, toutes sortes de figures humaines se dresseront autour de lui, comme font encore, dit-on, sous les yeux d'autres voyageurs, les fantômes qui errent parmi les ruines humiliées du ghetto de Varsovie.
Madamalze! Yeah! Yes! Et si yo vais couper mi coula, ya. Et si yo vais couper couala, yo. Et même si yo te pèse pour atamboula, nous déterminer, nous qu'est chanter en a cappella.
C'était La Mulâtresse Solitude, une émission enregistrée en public au Panthéon dans le cadre des 30 ans de l'émission Une vie, une œuvre, avec Maryse Condé, Simone Schwarzbart, Louis-Georges Thin et le sculpteur Nicolas Alquin. Lecture, André Vins. Texte extrait de La Mulâtresse Solitude d'André Schwarzbart et de L'Histoire de la Guadeloupe d'Auguste Lacour. Cette émission était produite par Martin Kénéen et réalisée par Doria Zénine. Prise de son et moyens techniques ici au Panthéon, Marcos Daras, Pierre Quintard et Rémi Gouriou. Une vie, une œuvre, une émission coordonnée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Réécoute, commentaires, podcasts et compléments sur franceculture.fr. Et tout de suite, sur France Culture, c'est le temps des écrivains de Christophe Onodibio. I'm gonna